Donc, aujourd'hui, je suis avec Étienne Broy, qui est conseiller en gestion de patrimoine donc sur Angers et sur l'Île-de-France, et
Oui.
également enfin, tout ce qui est région Grand Ouest, on va dire.
Bonjour
Et
Cédric.
bah, toi, quand tu m'as dit que tu étais conseiller en gestion de patrimoine, j'ai un petit peu ricané. Je me suis dit, ouais, encore un de plus. Mais toi, ce qui te caractérise, c'est que tu es toi-même investisseur en immobilier et que tu as plusieurs immeubles à ton propre compte. Donc, là, quand tu m'as dit ça, bah, tu as retenu mon attention. Je me suis dit que peut-être, bah, en fait, tu étais peut-être bon, en fait. Parce qu'il y a souvent des gens qui sont conseillers en gestion de patrimoine et ils ne savent pas forcément de quoi ils parlent. Et ce serait plus. Ils portent bien leur nom, ils sont plus conseillers en gestion. Ils sont pas vraiment conseillers en création de patrimoine, ce qui est le plus important pour ceux qui commencent, qui partent de zéro, comme moi. Donc, toi, tu serais plus un conseiller en création de patrimoine, en fait. Ce qui est beaucoup mieux que gestion de patrimoine. Enfin,
D'accord.
bref.
En fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'au départ, quand j'ai démarré l'activité, il y a à peu près 3 ans, 3 ans et demi, la première question qu'on m'a posée, mais qu'est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine? Et je dirais que la majorité des gens ne comprennent pas réellement ce que fait le conseiller en gestion de patrimoine. On a l'impression qu'il faut avoir une fortune comme Madame de Bettencourt, etc., pour avoir droit à du conseil. Alors que moi, mon rôle, c'est plutôt d'enrichir mes clients. C'est la première priorité. Et la deuxième chose, c'est que quand j'ai commencé le métier, je me suis dit, on ne peut pas proposer quelque chose raisonnablement à ses clients si on ne l'a pas testé soi-même. Donc c'est un petit peu mon leitmotiv, c'est si je propose quelque chose à mon client, un, je l'ai testé. Et deux, j'en connais la réelle valeur. C'est vraiment mon créneau. Donc voilà.
Parce que toi, tu me disais aussi une chose que tes clients te demandaient systématiquement quand ils venaient te voir, c'était comment payer moins d'impôts. Et toi, tu leur
Voilà.
réponds en fait que ton job serait plutôt de leur faire payer un maximum d'impôts.
Voilà. En fait, souvent de fois, on me dit comment défiscaliser. C'est un peu la course à la réduction au crédit d'impôt. Comment on peut tout simplement payer moins d'impôts? Et c'est vrai que c'est un créneau qui est très utilisé dans la profession. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à me dire, mon but, c'est quand même que mes clients soient à l'ISF. C'est vraiment mon objectif. Pour être à l'ISF, il faut créer un patrimoine. Donc, la majorité de mes clients, ils partent de plus ou moins zéro. Ben, comme tu l'as fait, tu l'as démontré dans ton blog, il faut à un moment démarrer. Et la première impulsion est la plus importante. C'est-à-dire qu'on va tout simplement rendre le projet possible avec les chiffres, faire des crédits, s'endetter. Je ne sais pas si on en parlera, mais il faut vraiment comprendre le fonctionnement du crédit et de l'endettement, en tout cas du bon crédit. Et à partir de là, mon objectif, c'est vraiment que mes clients maîtrisent leur fiscalité tout en créant leur patrimoine. Donc voilà, au final, généralement, on arrive à des impôts un peu plus élevés.
Et comment tu es devenu conseiller en gestion de patrimoine? Puisque enfin, tu me dis que ça fait 3 ans que tu fais ça. Avant, tu étais ingénieur à l'étranger, non?
Voilà, en fait, j'ai fait ma route est un petit peu spéciale, c'est-à-dire que j'ai passé un peu de temps à Hong Kong et en Australie. J'étais ingénieur dans des boîtes qui étaient un petit peu plus américaines. Et donc, en revenant en France, je me suis posé à Paris comme beaucoup de monde. Et là, en fait, j'ai vraiment essayé de revenir à ma passion première, qui est la finance. Et je me suis dit, ben pourquoi pas, j'adore tout ce qui est immobilier, tout ce qui est financier, j'ai fait un peu de trading. Et puis voilà, à un moment donné, il fallait faire le pas. Donc c'est pour ça que je me suis lancé, sachant que j'avais déjà pas mal de connaissances. Moi, j'ai tout simplement refait un diplôme derrière Bac plus 5 pour pouvoir un petit peu affiner tout ça. Et voilà, c'est que du bonheur depuis.
Et donc, enfin, toi, tu penses que l'immobilier, c'est un des meilleurs moyens pour créer de la richesse en partant de zéro?
Voilà, en fait, pour un peu illustrer le cas, prenons quelqu'un qui a 10 000 ou 15 000 euros en banque, qui a travaillé quelques années, etc. Si aujourd'hui ils veulent se créer du patrimoine, ça va être compliqué avec 15 000 euros de le placer, que ce soit la bourse, que ce soit les placements financiers classiques, assurance vie, etc. On va pas vraiment créer de valeur. C'est-à-dire qu'on va falloir à la bourse tout simplement faire une plus-value pour un placement en livret A ou en assurance vie, c'est pareil, on gagne du 4% annuel. Et donc on a cette espèce de frein qu'est l'inflation. Et cette inflation-là va tout simplement jouer contre nous. Si on place à 2%, à 4%, pardon, et qu'on a 2% d'inflation, c'est-à-dire qu'en réalité, on s'enrichit que de 2% annuel. Avec l'immobilier, le gros avantage, c'est que c'est la banque qui paye. C'est-à-dire que vous empruntez de l'argent aujourd'hui et vous remboursez sur 20 ans, sur 15 ans. Et en fait, le temps joue avec vous. C'est-à-dire que vous fixez une mensualité. Vous êtes, en gros, vous pouvez investir dans des choses qui sont de l'ordre de 200, 300, 400 000 euros certaines fois. On parlera des immeubles tout à l'heure. Il y a quand même un effet de levier qui est assez important. Et l'immobilier, c'est la seule chose, que ça soit du foncier classique pour l'habitation, des locaux commerciaux, c'est la seule chose qui s'achète, qui prend de la valeur et qui se loue pendant son utilisation. Vous achetez une action, vous êtes obligé de la revendre pour faire une plus-value. Là, vous achetez un bien immobilier, pendant que vous le gardez, vous le mettez en location, donc quelqu'un d'autre paye le prix. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un effet de levier phénoménal. On va prendre un exemple, vous achetez un appartement de 100 000 euros. La banque vous prête 100 000 euros, vous avez zéro. Le locataire, lui, rembourse 500 euros de loyer. Et donc, vous avez 600 euros de mensualité. Donc, vous payez 100 euros par mois pendant, on va dire, 20 ans. Et donc, les 500 euros restants seront à la charge du locataire. Donc, voilà, c'est vraiment l'effet de levier du crédit. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut avoir conscience. On ne peut pas vraiment comparer l'aspect financier et immobilier. C'est vraiment deux choses séparées.
Donc toi, tu dis que pour réussir un bon investissement, il faut mettre le moins d'argent possible de ta poche au départ, donc le moins d'apport possible,
Voilà.
pour faire enfin utiliser l'argent des autres, de la banque,
Tout à fait. En
l'effet
fait, on
levier.
rembourse, il faut bien imaginer que l'inflation, c'est quelque chose qui vient manger notre capital tous les jours. C'est-à-dire que vous avez 100 000 euros en banque. Si vous avez gagné 2% chaque année et que l'inflation est à 2%, c'est-à-dire que vous n'avez rien gagné. C'est-à-dire que si vous gardez ce cash-là, c'est plus pour des questions, je dirais, de gestion quotidienne. Si vous avez une voiture à acheter, etc., vous n'allez pas faire un crédit. La grosse majorité des gens, par exemple, vont acheter un bien et pensent que c'est bien de l'acheter cash ou de mettre le maximum de cash. Le problème, c'est qu'on arrive à une fiscalité très importante des revenus locatifs. Donc, par exemple, on va prendre 100 000 euros. Un exemple, un client a 100 000 euros. Il achète un appartement 100 000. Donc, quelque part, il va toucher des loyers directement. S'il est fiscalisé à, on va dire, 30%, donc sa tranche marginale d'imposition est à 30%, il va devoir payer 30% plus 12,3% de CSG. Donc il y a 42,3% de ses loyers qui vont aller directement vers l'État pour les impôts. Donc il perd la moitié plus ou moins de ses loyers. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment jouer avec la fiscalité. Et l'avantage de l'emprunt pour un investissement locatif, c'est que les intérêts sont déductibles entièrement. Donc c'est vraiment la chose. Et l'erreur. Je dirais qu'il vaut mieux faire un emprunt de 100 000 et placer les 100 000 restants ailleurs que de consommer entièrement son cash.
Mais les gens qui n'ont pas d'éducation financière, justement, pensent que c'est mieux de placer les 100 000 euros, d'acheter le logement en cash et de recevoir les loyers derrière. Ils pensent que voilà, c'est le manque d'éducation financière qui leur coûte cher, en fait.
C'est la peur des crédits. C'est-à-dire que dans notre pays, on a une sainte horreur des crédits. J'aurais tendance à dire celui pour les crédits à la consommation classique, pour une voiture, des vacances, des travaux, c'est vrai que c'est pas vraiment une bonne chose. C'est-à-dire qu'on va s'endetter certaines fois à 3, 4, 5, voire 10% pour certains.
Parfois 18, pour les
Voilà,
crédits.
voilà. Et donc là, c'est vraiment une chose qui est plutôt dévastatrice pour pas mal de ménages. Par contre, le crédit immobilier a un avantage, c'est que voilà, c'est que en fait, on va tout simplement fixer un prix. On va rembourser des taux en ce moment qui sont de l'ordre de 3,5-4%, donc qui sont relativement faibles. Dès que l'inflation repartira, ce qui est quand même prévu, on arrivera à des taux qui seront à 6-7%. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on pourra très bien placer son argent à 6 ou 7%, comme c'était le cas dans les années 80. Et en fait, il faut revenir en arrière pour voir qu'on est vraiment dans une phase où il est très très intéressant d'investir à crédit. C'est vrai que l'argent n'a jamais été aussi peu cher. Voilà. Et c'est vrai que ce serait dommage de ne pas profiter de ce levier.
Un autre phénomène aussi qu'on peut faire, c'est prendre un crédit, puisque les taux sont faibles actuellement et que enfin, je pense qu'ils peuvent que remonter. Actuellement, s'ils sont à 3 et quelques pourcents, ils peuvent difficilement aller en dessous. Un truc intéressant, c'est de prendre un crédit transférable sur 20-25 ans. Parce qu'un couple, en fait, a tendance, je crois que c'est, ils déménagent 3 ou 4 fois. Donc, à chaque fois, ils revendent leurs biens et reprennent un nouveau crédit. Le problème, c'est que c'est au début qu'on a le plus d'intérêt. Alors que si tu prends un crédit transférable dès le début,
Oui.
et bien au fur et à mesure, 5 ans, 10 ans, 15 ans après, tu paieras de moins en moins d'intérêt. Et donc là, sur le coup, tu peux gagner facilement 100 000 euros sur 15-20 ans.
Alors
Je ne sais
ça,
pas si tu connais ce mécanisme.
oui, c'est un mécanisme qui est de plus en plus utilisé, c'est vrai. Et ce crédit, en fait, il va tout simplement permettre de garder déjà des taux intéressants. Parce que si on arrive à avoir un taux comme en ce moment à 3,5, que les taux remontent, du coup, on garde l'intérêt. Ça n'a pas été très utilisé dernièrement parce que les taux ont toujours dégringolé. Donc, c'était plus intéressant d'en reprendre un. Mais c'est vrai que, à mon avis, dans l'avenir, ça risque de se faire un peu plus. Par contre, c'est plus utilisé pour les résidences principales. C'est-à-dire que, comme tu dis, à un moment donné, on a énormément de turnover. En moyenne, c'est 6-7 ans, c'est ça?
Ouais, peut-être un peu moins au début, ouais, 5
Voilà,
ans.
c'est 5 ans. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que la résidence principale, c'est vraiment un autre marché. C'est-à-dire que on pense, en achetant un appartement ou une maison en résidence principale, qu'on s'enrichit. Alors que la majorité du temps, c'est faux. La raison, elle est simple. C'est que quand on achète une résidence principale, on oublie de parler des frais. Donc on va oublier de rentrer dans la plus-value potentielle qu'on a dégagée, qu'on a payé des frais de notaire. On oublie les frais qu'on va utiliser pour les travaux, on va refaire le parquet, on va refaire la fenêtre, etc. Et donc globalement, celui qui va acheter pour revendre dans 5 ans, si le marché est constamment haussier sur Paris, comme c'est le cas depuis une dizaine d'années, tout va bien. Le jour où le marché stagnera, il serait plus judicieux d'être locataire. Et j'ai fait pas mal de simulations dans ce sens-là ces dernières années. Et c'est vrai que on se rend compte que si on compte réellement les frais, les intérêts d'emprunt qu'on paye à la banque, etc., il est intéressant de se poser la question, est-ce que c'est pas plus judicieux d'être en location? Donc moi, c'est quelque chose qui me tient un peu à cœur. Je préfère tout simplement diriger mes clients vers la location quand c'est pour 4-5 ans. Après, au-delà, c'est vrai que c'est plus intéressant d'être propriétaire. Mais attention, l'investissement locatif et la résidence principale, c'est deux choses différentes. On ne gagne pas d'argent avec une résidence principale. C'est un passif.
Tout simplement parce qu'on ne gagne pas d'argent avec, il n'y a pas de loyer, il faut payer les
Voilà.
charges, taxes foncières, taxes d'habitation,
On
entretien.
pense s'enrichir et en fait c'est au même titre qu'une résidence, c'est au même titre, je dirais, qu'une résidence secondaire ou une voiture. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun revenu de ces investissements, donc c'est tout simplement pas un investissement. Voilà. C'est un actif, c'est vrai, mais des moments où on le vend, c'est pour en racheter un plus grand, donc voilà, c'est pas productif.
Une autre chose qui m'a plu chez toi, c'est que bah, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu fais de l'investissement dans l'ancien, ce qui est assez rare, parce que généralement tes collègues nous vendent plus du neuf, tout ce qui est Célia, Robien, Bordeaux, Besson et compagnie. Tout simplement parce que eux gagnent plus d'argent en nous vendant ça, alors que le client lui-même finalement n'est pas très gagnant. Enfin,
Alors, je dirais qu'il y a vraiment deux mesures pour ça. C'est-à-dire que moi, je fais du neuf, j'en fais aussi. J'en ai fait, enfin, je dirais même ce mois-ci. La difficulté en ce moment, c'est de trouver du neuf à un prix correct. Et le problème, je dirais, des dernières années, c'est qu'en fait, on a tout simplement évolué dans les normes. On a la fameuse nouvelle norme BBC, donc bâtiment basse consommation. Avec l'investissement Célier, c'est vrai que c'est une bonne opportunité. Le problème, il est que les prix en 1 ou 2 ans ont augmenté de quasiment 15 à 20% pour des loyers qui sont plafonnés toujours au même niveau, à peu près. Donc après, la difficulté que j'ai rencontrée, c'est tout simplement trouver des programmes de qualité à un prix correct, qui ne soient pas trop éloignés du prix de l'ancien. Parce que vous imaginez bien que, enfin, si tu imagines avoir un appartement ancien à côté qui vaut 3 000 euros du mètre carré et que le neuf qui est juste construit est à 5 000, on a quand même un problème. C'est-à-dire que dès le moment où il est neuf, il est habité, il devient de l'ancien. Donc il a certes des normes un peu plus intéressantes, BBC, etc. Mais le marché va tout simplement réguler son prix. Donc il va perdre de la valeur à un moment donné. Donc c'est vraiment toute ma préoccupation en ce moment dans le neuf, c'est le prix et tout simplement ne pas être trop éloigné non plus des commerces, etc. C'est ce qu'on a tendance à voir, c'est-à-dire qu'on arrive des fois à avoir des programmes qui sont un petit peu trop éloignés des commerces.
Mais concrètement, pour le particulier qui veut investir, c'est plus intéressant pour lui d'aller dans l'ancien.
Alors non, il y a deux choses. Il y a le gros avantage du neuf, on l'a bien compris, c'est le cellier par exemple en ce moment, qui était anciennement Robien ou Borloo, c'est l'intérêt fiscal. Le problème, voilà, l'intérêt fiscal pour moi, il est soit à mettre en priorité pour certains clients qui veulent aussi un bâtiment neuf, donc sans travaux, mais c'est vrai que pour construire un patrimoine un peu plus important, c'est-à-dire que de ne pas s'arrêter à un, deux, trois appartements, il faut faire attention tout simplement à ne avoir des rendements locatifs intéressants. Donc le problème du neuf, ça va être tout simplement qu'on va arriver à un taux d'endettement qui va être plus élevé avec un seul bâtiment, avec un seul appartement, tout simplement parce que la banque ne prend pas en compte l'avantage
L'intégralité
fiscal.
du... D'accord.
Voilà. Et donc, elle ne prend pas en compte l'avantage fiscal, c'est-à-dire que ça fait grimper tout simplement le taux
Ok.
d'endettement plus vite. Avec l'ancien, on arrive à avoir des rendements, j'irais pour une région que je connais bien, Angers par exemple, on arrive à toucher du 7% dans le centre-ville, 7-8%, et on arrive à dépasser 10% dans des villes qui sont un peu plus périphériques. Et j'ai tendance un peu à privilégier, j'irais, des marchés un petit peu oubliés. Qui sont comme Angers, plutôt que de me ruer, comme en ce moment c'est le cas, sur des appartements parisiens qui me semblent très chers, sauf exception.
D'accord. Non, mais c'est ça, si on gagne de l'argent avec l'immobilier, il faut pas faire comme tout le monde.
Voilà, c'est un peu ma stratégie, elle est simple, c'est que si on achète bien, généralement on revend très bien. Et ça, tu l'as prouvé avec ça.
Il me semble aussi qu'on peut faire nous-mêmes du... Enfin, une espèce d'opération défiscalisante type cellier ou Robien tout seul.
Bien
Il me
sûr.
semble qu'il doit y avoir 4 ou 5 normes à respecter en retapant un logement ancien. Je ne sais pas si tu connais cette chose-là.
Alors, anciennement, c'était le Robien rénové.
Voilà.
Cette mesure est tombée, donc c'est de plus en plus difficile de faire ce genre de montage. Après, on peut le faire en déficit foncier. Donc, ça veut dire qu'on va tout simplement reprendre un ancien bâtiment, le retaper, etc. Mais le dispositif cellier ne prévoit pas ce genre de
D'accord, parce
choses.
que ça honnêtement c'était quand même plus intéressant pour le particulier. Bon, le problème c'est que ça court-circuitait les promoteurs
Voilà.
et vous.
Voilà.
Mais pour le particulier c'est quand même plus intéressant.
Non, c'est
Au niveau
vrai
du
que
prix d'achat notamment.
le problème du neuf aussi, il faut l'accepter, c'est que le promoteur doit gagner sa vie, les artisans doivent gagner leur vie. Un logement qui a été construit il y a 30 ans, forcément, n'a pas les mêmes normes. Forcément, c'était construit au moment où la monnaie n'avait pas la même valeur. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment comparer les choses. Donc, c'est vrai que le circuit de distribution est complètement différent. Voilà. Mais c'est vrai que la rénovation, c'est aussi un autre moyen de valoriser un bien.
Et donc toi, ton business model par rapport aux immeubles,
Oui.
bah, il est assez intéressant parce que donc tu es toi-même propriétaire de plusieurs immeubles. Et donc toi, tu m'as expliqué que tu privilégiais pas forcément les biens de prestige situés dans le centre d'Angers, en pierre de taille. Ça te dérangeait pas de sortir un petit peu des sentiers battus, d'aller quelques dizaines de kilomètres plus loin et de trouver des bâtiments qui payent pas forcément de mine, dans des villes qui sont pas forcément très 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 peuplées. Et justement, tu me disais qu'il y avait quand même de la demande, que tout le monde ne voulait pas habiter forcément en centre-ville,
Voilà.
et que c'était peut-être même plus avantageux de faire ça. Donc
Alors,
explique-nous un petit peu, parce que finalement, tu
ouais.
t'en sors bien, parce qu'avec tes propres investissements, se payent tout seul, et donc ils génèrent même un petit peu de cash flow. Donc ce qui pour moi, prouve que tu sais de quoi tu parles.
Ben, en fait, c'est vrai que la première chose qu'un ami trader m'a expliqué, j'irai, c'est un peu dans le domaine financier, m'a dit qu'il fallait tout simplement s'intéresser aux choses dont personne ne s'intéresse. Aujourd'hui, les gens se disent, alors c'est très, très souvent le discours des agents immobiliers, la situation, l'emplacement, 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 c'était toujours le leitmotiv, etc. Et donc on se retrouve tout simplement à avoir une sorte de surévaluation des prix dans les centres-villes, sachant qu'aujourd'hui, on va prendre le cas de Vannes, que je connais bien, ou d'Angers, qui veut aujourd'hui habiter en centre-ville? Vous pouvez pas vous garer, c'est centre piétonnier. Personne n'a vraiment envie d'avoir les bruits de café, etc., le soir tard. Donc c'est quand même assez étonnant, parce qu'en fait, on va privilégier un investissement en plein centre des villes, là où on ne peut pas se garer, là où c'est difficile d'accès pour aller faire ses courses et ramener les courses à la maison. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y a finalement une demande qui est bien autre que celle-là. Et je me suis posé la question tout simplement, savoir s'il n'était pas plus intéressant d'être dans le centre-ville. Alors ça, c'est vrai que c'est important d'être très proche proche des commerces, à moins d'un kilomètre par exemple, mais de villes plus petites, périphériques. Et ce qu'on remarque par exemple sur Angers, ça va être tout simplement, on a des villes comme Beaufort-en-Vallée, comme Avrillé, etc., qui ont des commerces un petit peu plus diffus. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un centre-ville qui sera à 20 ou 30 km de la ville, d'une grande ville, et donc du coup, ils sont florissants. C'est-à-dire que les gens ne vont pas faire 30 km en voiture pour aller faire leurs courses sur Angers, ils vont le faire dans ce centre-ville-là. Et donc les petites villes de 10 000 habitants, finalement, c'est aussi, les oublier. C'est-à-dire que dans ces villes-là, il n'y a pas de spéculation immobilière, donc les prix sont très honnêtes. Il y a une demande de locative, et tout simplement, on arrive à trouver des immeubles complets pour 150 000, 200 000 euros. Donc c'est vraiment quelque chose oublié. Voilà. Donc l'idée, c'est de chercher à faire différemment des autres. Moi, par exemple, sur Paris aujourd'hui, j'ai mes réserves, donc je pense que les prix sont un petit peu déraisonnables et sont un peu déconnectés de la réalité. Maintenant, c'est vrai que cette situation est un peu la même sur Nantes, sur Lyon, sur Marseille. Pour moi, il y a des zones oubliées, il faut peut-être y penser.
Mais pourquoi le locataire qui pourrait aller à Angers pour le même prix va aller à 20 km, 30 km d'Angers dans
Ah
un
non,
petit bled
alors pas pour le même prix.
pour 30 euros de moins par mois?
Parce qu'il travaille dans le coin. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les emplois ne sont pas forcément tous dans les grands centres-villes. En fait, on oublie très souvent de dire que voilà, les entreprises, elles sont généralement à la périphérie des villes. Elles n'est pas dans le centre-ville. Dans le centre-ville, on a uniquement les commerces, les restaurants, ce genre de choses. Et ce qui ne draine pas la majorité des emplois. En tout cas, il y a beaucoup de villes qui fonctionnent comme ça, c'est-à-dire qu'on va avoir des zones industrielles, on va avoir des bâtiments entiers commerciaux qui vont être désaxés. Et donc les gens n'ont pas forcément intérêt à habiter dans le centre d'une ville. Donc ce qu'ils cherchent, c'est tout simplement avoir un peu plus d'espace pour le même prix. Et par exemple, je ne sais pas, imaginons un T2 à Paris et un T2 à Angers, c'est vrai que le prix est complètement différent. C'est-à-dire qu'un T2, pouvoir se louer 320 euros sur Beaufort-en-Vallée, il va se louer 400 euros sur le centre d'Angers, et il va se louer peut-être 900 ou 1000 euros sur Paris. Donc c'est vraiment, je dirais, la recherche aussi de l'espace. Pour le même prix, le même salaire, finalement, pourquoi ils n'iraient pas tout simplement à un endroit où il y a un peu moins de concentration?
Et au niveau de la gestion des locataires,
Oui.
par rapport à tes immeubles, comment tu fais? Est-ce qu'on t'a appelé durant la nuit pour des problèmes de toilettes, ou des vieux bouchers?
Alors non, c'est vrai que on a toujours cette image en tête du locataire qui appelle pour changer l'ampoule en plein milieu de la nuit. Honnêtement, j'ai pas à me plaindre. C'est vrai que il y a un certain moment où il y a des choses à faire, c'est-à-dire que voilà, clairement, il y a une prise de téléphone qui ne fonctionne pas, des choses comme ça. Je dirais que pour que ça se passe bien dans les relations avec le locataire, il faut que les choses soient faites. Voilà. Il y a deux solutions. Soit on le fait soi-même, c'est mon cas. Moi, je me suis dit, voilà, c'est une expérience que j'ai vraiment envie de tenter ce contact avec le locataire est très intéressant. La moitié du temps, je me retrouve à discuter avec eux de tout et de rien, et c'est vraiment très enrichissant, et ça permet aussi de lier, de garder un lien en fait. Et on se rend compte tout simplement que la majorité des problèmes qui arrivent avec les locataires, c'est tout simplement le manque de communication. C'est-à-dire que le locataire, il a une prise de téléphone ou la prise télé qui ne fonctionne pas, il appelle deux, trois fois, personne ne vient, et là, qu'est-ce qui se passe? Un impayé. Voilà. C'est souvent, très souvent, la conséquence, les impayés sont la conséquence de l'inaction du propriétaire. Donc je dirais que les problèmes, il faut les gérer à la minute ou tout de suite, rapidement, à la journée. Souvent, de fois, ce n'est pas très grave, ça va être vraiment des petites choses. S'il y a des frais à faire, c'est très rare, mais ça peut arriver, mais il faut faire les frais. Je dirais que c'est aussi, je dirais qu'on a une prestation à apporter au locataire en échange de son loyer. Voilà. Si on ne l'apporte pas, il peut, je dirais, raisonnablement nous en tenir rigueur. Voilà.
Il y a les bons propriétaires et les mauvais propriétaires. Les mauvais propriétaires, c'est ceux
Voilà.
qui veulent juste récupérer le loyer sans rien donner en retour. Et donc, voilà, ils sont rétribués en retour par le locataire
Tout à fait.
par un oubli de paiement du loyer. Et le propriétaire qui est un petit peu plus consciencieux et sympa avec son locataire, parce que finalement, le locataire, c'est un business partner.
Tout à
S'il ne paye
fait.
pas son loyer, le business tombe à l'eau.
Tout à fait.
Donc, celui qui est un petit peu plus effectivement sympathique et qui s'intéresse davantage à eux, il n'y a effectivement pas de souci.
Et c'est vrai qu'à un moment donné, comment dirais-je? C'est vrai que si on oublie que finalement c'est du business, ni plus ni moins, hein, c'est une prestation. Si on l'a fait mal, c'est.
Ouais, parce que le locataire, c'est le client finalement.
Voilà, c'est un client.
C'est comme si que le client allait au restaurant et le restaurateur lui balançait les assiettes à la figure et.
Exactement, il reviendra pas. Enfin là, dans ce cas, il paiera pas son loyer. Et c'est vrai que moi, j'ai rencontré, il m'est arrivé pendant des visites pour des clients de propriétés, enfin d'immeubles ou d'appartements, j'ai rencontré certains propriétaires avec une philosophie qui était vraiment assez étrange. Tout simplement, leur philosophie, c'est j'encaisse, comme tu dis, les loyers. Je fais absolument rien comme travaux. Et comme ça, tout le monde s'en porte mieux. Le problème, il est que leur bien se dégrade, parce qu'à un moment donné, plus leur bien se dégrade, plus les travaux sont importants en conséquence. Et surtout, si leur bien n'est pas bien entretenu, ce qui se passe, c'est que les locataires, n'en prennent encore moins soin. C'est-à-dire que s'ils ont un appartement rénové, très très propre, etc., en parfait état, généralement, il le restitue pareil.
Clairement.
S'il commence à être dégradé, il va se dire, ah, il est dégradé, donc je peux y aller.
Bien sûr.
Et donc, du coup, c'est une sorte d'engrenage. Et tous les propriétaires qui ont laissé traîner, qui ont été des mauvais propriétaires, comme tu dis, l'ont plus ou moins regretté, avec des problèmes de loyer.
Moi, j'ai un de mes mentors en immobilier qui me dit, bon, lui, il est encore à l'ancienne, hein, il veut mettre de la moquette dans ses appartements. C'est son choix. Mais en tout cas, il donne la moquette neuve à ses locataires. Et donc quand ils font l'entrée des lieux, ils montrent aux gens que la moquette est neuve et il fait constater et il fait signer le papier comme quoi la moquette est neuve. Donc le locataire prend conscience qu'effectivement on lui donne un truc neuf et il le rend dans le même état. Il fait super attention. Alors que si la moquette était dans un état moyen, le gars, enfin, voilà, il renverserait le café dessus, il ne ferait pas attention aux petits enfants qui viennent chez lui et qui balancent du café partout. Donc lui, il fait prendre conscience au locataire que la moquette, il est dans un état impeccable, neuve, et que donc, s'il ne le rend pas neuve, dans ce cas-là, c'est sa faute et il va devoir payer. Et donc, il n'a jamais de souci.
Alors, c'est vrai qu'en Australie, on était locataire pendant quelques années là-bas, et c'est vrai que c'est assez étrange parce que c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire qu'ils ont tout simplement, à l'entrée des lieux, ils font faire tout simplement un shampouinage de moquettes, c'est pour les moquettes, c'est très, très à la mode là-bas. Et donc, quand on part, on a l'obligation de montrer un devis. Comme quoi on a tout remis en état, c'est-à-dire qu'on a l'obligation de faire intervenir une société de nettoyage. C'est-à-dire qu'on paye de notre poche une société pour shampouiner la moquette, une société pour laver tout ce qui est plaque, etc. Et je trouve que c'est, à la limite, il faudrait presque l'imaginer pour chez nous.
Ça responsabilise le locataire.
Voilà, tout à fait.
Et au niveau de comment tu fais pour trouver les bonnes affaires, les immeubles?
Alors, c'est vrai que c'est un peu la difficulté. On n'est pas dans un marché. Alors, il y a vraiment deux choses, hein. C'est si on cherche quelque chose sur Paris, en ce moment, c'est extrêmement difficile. Très peu de gens mettent en vente leur appartement en imaginant que les prix augmentent. Voilà. Les arbres vont pas jusqu'au ciel. Donc, du coup, c'est vrai que ça devient compliqué. Sur Angers, le marché est très différent. C'est vraiment un marché que je connais bien. Le marché est très différent, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vendent leur immobilier à un prix raisonnable. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à en faire un maximum d'argent, ils cherchent tout simplement à vendre leur patrimoine, partir en retraite, ou la majorité du temps c'est pour partir dans le sud ou en Bretagne, etc. Et
Pourquoi c'est
donc,
pas bien Angers?
non, c'est très bien Angers, sauf qu'il y a une génération de propriétaires, alors je parle pour les immeubles, hein. Il y a une génération de propriétaires qui ont acheté des immeubles entiers et qui les revendent maintenant, et on arrive à trouver des prix très très raisonnables qui sont négociés. C'est-à-dire qu'en fait, les prix, il y a eu une sorte de petite bulle sur Angers en 2007-2008, plutôt 2007, qui a un peu éclaté, et donc on est retourné à un prix, le prix était monté à 3 000 euros du mètre carré dans le centre-ville. Là, on est à 2200, 2300, donc on est quand même bien en dessous. Et on arrive à trouver des immeubles, comme je te dis, à 200 000, 250 000. Pour des gros immeubles, on arrive à avoir des 400 000. C'est le prix d'un T2 ici. Donc c'est vrai que c'est patrimonialement, c'est beaucoup plus intéressant d'acheter un immeuble complet parce qu'on n'aura pas, on décide ce qu'on fait, est-ce qu'on change la toiture ou s'il le faut ou pas. Voilà, on peut diviser comme on en a envie. On est beaucoup plus libre dans la gestion. En copro, dans un seul appartement, ça devient un peu plus délicat. Et surtout qu'on a un effet de masse, c'est-à-dire qu'on achète l'immeuble complet, donc les frais notaires vont être beaucoup moindres, parce qu'ils ne sont pas proportionnels. Je dirais qu'ils sont dégressifs avec le prix. Et donc, on va avoir un effet de masse aussi sur le prix, un effet sur les frais. Donc le prix, forcément, on n'achète pas le même prix au mètre carré pour un immeuble ou
Merci.
pour un appartement. On a aussi... Et je dirais que c'est le gros avantage, on a un pouvoir de négociation bien plus important. Qui c'est qui va acheter un immeuble? Est-ce que ça va être un couple qui veut s'installer avec ses enfants? Non. Résultat, c'est un investisseur. En ce moment, les investisseurs sur Angers n'ont pas forcément les moyens de mettre 300 000, 400 000. Et c'est vrai que du coup, on a un pouvoir, nous, de négociation qui est énorme. C'est-à-dire voilà, on peut baisser le prix de 15-20%, ça se voit. Voilà. Donc certains marchés s'y prêtent, en ce moment c'est le cas d'Angers, Vannes aussi, un petit peu plus difficile mais c'est possible, Tours un peu moins parce que c'est quand même assez prisé par une certaine catégorie. Voilà. Voilà. Après c'est vrai que moi comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que je privilégie à la limite d'aller dans des coins où personne n'aurait imaginé. Voilà. C'est vraiment mon créneau. L'objectif, c'est que ça fonctionne très bien et que voilà, que les loyers soient plus élevés que les mensualités, c'est quand même un peu l'objectif. Voilà.
Ok. Et concernant le financement, tes clients n'ont pas de soucis pour financer des immeubles qui se trouvent un petit peu dans des parties, enfin en province, quoi. Ils ont pas, par rapport aux
Non,
banques, ça passe bien?
pas du tout. Mais en fait, généralement, on fait appel aux banques locales, donc ils connaissent très bien le marché. En fait, le gros problème de l'immobilier de province, là je mets les guillemets, c'est tout simplement que bah, c'est financé par des banques qui sont sur place. Donc de toute manière, il n'y a aucun problème là-dessus.
Donc si une personne veut investir en province, il faut aller directement voir les courtiers ou les banques sur
Voilà.
place.
Alors moi, ce que je fais, c'est que pour mes clients, je passe par un, voire plusieurs courtiers, pas à la fois bien sûr, mais donc ça va être des gens qui vont savoir... Selon si c'est des locaux commerciaux, ça va être un petit peu plus spécifique, etc. Si c'est monté en SCI à l'impôt sur les sociétés, par exemple, ça va être aussi un type de financement un peu différent. Ça va vraiment dépendre. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à passer par les courtiers. C'est leur job. Ça n'augmente pas considérablement la facture, sachant qu'un courtier va prendre 500 ou 1000 euros grand maximum de frais de dossier. Je dirais que dans un financement, c'est complètement transparent et c'est largement gagné par le montage lui-même. Donc oui, non, je dirais qu'il faut financer en priorité avec les banques locales. Maintenant, si vous avez un banquier dans votre ville qui est prêt à financer, il n'y a pas de souci. Mais je dirais que dès le moment où c'est un immeuble avec des murs, avec un toit, et qu'il n'est pas insalubre, il n'y a pas de problème, quoi.
D'accord. Comment tu fais pour estimer un immeuble que tu visites? Parce que
Ah.
normalement, pour estimer, on doit comparer par rapport aux
Voilà.
biens similaires qui se vendent. Mais si tu achètes un
Non.
immeuble de 200 mètres carrés dans un bled, entre
Alors,
guillemets.
je dirais qu'il y a plusieurs choses. C'est vrai qu'on va pas faire de la même façon sur Paris où on a finalement des éléments de comparaison assez importants. On a quand même une densité tellement forte et un nombre de transactions qui permet de faire de la comparaison. D'ailleurs, c'est un peu le problème parce que en comparant, finalement, ça fait que monter le marché. C'est-à-dire qu'on va dire, ah, c'est à peine plus cher que l'autre, et puis en fait, ça monte, ça monte. Là, en fait, on va tout simplement faire la même chose, mais on va un peu moins parler de prix au mètre carré. On va surtout, j'irai estimer, alors c'est un travail qui est un petit peu long, mais estimer, j'irai l'état de la structure, donc de l'immeuble, c'est-à-dire de la toiture. On va regarder quel type de plancher c'est, est-ce que c'est sain. Enfin, essentiellement voir ça. Et après, on va estimer surtout les travaux qu'il y a à faire. Et là, on va rentrer tout simplement dans une phase de consultation avec les entrepreneurs. Point positif aussi, c'est que je dirais qu'il n'y a pas non plus, il n'y a pas une pénurie d'entrepreneurs dans la région. Donc, du coup, on arrive à trouver des prix intéressants. Et aussi à bien négocier les prix. Voilà. Après, on va estimer, ça va être aussi, on estime le produit fini. Donc, un immeuble qui est déjà avec ses locataires où il n'y a absolument rien à faire, on va regarder le rendement. Et généralement, le rendement, c'est bon, c'est un truc qui est. C'est un. Comment dire? C'est un petit peu mécanique, mais si on a un rendement de 5% sur un immeuble, voilà, on n'y va pas, point. Voilà. C'est un peu l'idée, c'est d'avoir un rendement correct. Sachant qu'un immeuble peut aussi coûter un peu d'argent à retaper. Donc il faut vraiment bien gérer les travaux, essayer de surestimer, gérer la phase de travaux. Si vous pensez qu'il y en a pour 100 000, ben vous mettez 120 000. Il vaut mieux avoir une enveloppe travaux plus importante.
Donc actuellement, tu travailles pour moi, enfin, tu essaies de me trouver un immeuble en province,
Oui.
justement. Et j'aimerais bien trouver quelque chose qui se paye tout seul, entre guillemets. Et donc, on va prendre un exemple d'immeuble que tu as géré de A à Z pour un de tes clients. Donc, c'est un immeuble qui se trouve à Beaufort, en Valais, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Donc, c'est un bled, entre guillemets. Quand je dis ça, c'est pas péjoratif, hein.
Ouais.
Donc, c'est une ville, c'est pas un
Oui.
village, c'est une ville quand
Ah
même.
non, c'est une ville,
Qui se trouve
Digne-la-Ville.
à quelle distance d'Angers? C'est où?
C'est à peu près à 20-25 minutes d'Angers, donc sur la
D'accord.
route de Saumur, entre Angers et Saumur.
10 000 habitants quand même.
10 000
Donc
habitants,
c'est une
voilà.
belle ville, ok.
Ouais.
Et donc là-bas, tu as géré un investissement de A à Z. C'était quoi? C'était trois lots, un immeuble, quelle
Voilà,
surface?
en fait, il y avait un immeuble d'environ, je crois que c'est 170 mètres carrés. Donc, trois lots, c'est un T3 et deux T2, plus un commerce au rez-de-chaussée, en plein centre-ville. Donc, c'est vrai qu'on était très, très bien placé sur la place principale, qui est la place Jeanne de Laval, pour ceux qui connaissent. Et donc, c'est vrai que le projet en lui-même, je dirais que la plus grosse difficulté a été de trouver le bien au départ. Voilà. Et donc, la façon dont ça se passe, c'est qu'on trouve le bien, ensuite on essaie d'avoir une sorte d'analyse rapide sur les prix, les éléments de négociation, est-ce qu'on peut négocier tout simplement, le financement, est-ce qu'on peut trouver un bon financement, et après, il faut tout simplement se dire, est-ce qu'on monte une SCI à l'IS ou est-ce qu'on reste en fiscalité classique à l'impôt sur les revenus? Voilà, il y avait tout cet aspect-là. Et une fois qu'on a finalement fait ce projet-là, on a mis tous les chiffres, on a pris toutes les photos avant, on a essayé d'estimer un peu le coût des travaux en essayant d'avoir un peu de marge, et on a vu que les chiffres étaient bons.
D'accord. En tout cas, moi j'ai vu les photos avant et après, et franchement, bah, c'est plutôt pas mal, assez beau. Et donc, ça s'est loué super facilement.
Voilà, en fait, je dirais que pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans l'investissement, le plus gros souci, c'est de dire je ne vais pas trouver de locataire. Et une des façons pour éviter ce genre de soucis, en particulier dans les zones comme Beaufort-en-Vallée, où il n'y a pas non plus une surabondance de demandes par rapport à l'offre, il faut tout simplement pouvoir se positionner le plus proche possible de la demande. et se positionner comme la première offre que le client va voir. En gros, vous êtes sur le bon coin, enfin, je ne sais pas sur quel site, sur Sologer, etc. Il faut que ton client puisse, à un moment donné, dire, voilà, celui-là, elle est vraiment bien, il est au prix du marché, au même prix que les autres, mais il est vraiment bien. Donc je vais le visiter en premier.
Voilà.
Donc chaque locataire potentiel va tout simplement, comment dire, appeler le propriétaire du bien qui va être le plus beau. Voilà. Il faut qu'il soit beau, fonctionnel, il faut que les gens restent longtemps, c'est un
Au
peu
prix du marché.
l'objectif. Au prix du marché, voire un peu en dessous, moi j'ai tendance à mettre un peu en dessous et en fait j'irai après évaluer avec le temps. On n'est pas à 20 euros près, mais j'ai fait certains tests à titre perso. Tout simplement, des fois on était à 400 et en mettant à 380, d'un seul coup on avait une
Psychologiquement,
abondance de coups de fil. À 400 ou 410, ça ne passait plus. Tout simplement parce que les gens font des recherches par prix. Donc c'est très intéressant de pouvoir se mettre un peu en dessous. Pour info, pour Beaufort-en-Vallée, quand on a mis des appartements en ligne sur le bon coin, c'est d'un seul coup, on a eu dans la journée peut-être 10 appels. 10
d'accord.
appels, on a eu des mails, etc. Et donc ça, c'est la meilleure preuve que ça fonctionne. Et
Pour une ville de
voilà.
10 000 habitants, c'est pas trop mal.
Exactement.
En tout cas, les photos, ceux qui écoutent cette interview pourront les voir sur le PDF. Au niveau du prix d'achat, tout compris, ça, on était à combien?
Alors, faut que j'ai mes sou... si mes souvenirs sont bons, on était autour de 160 000, tout compris.
Tout compris. Et
Voilà.
ça, ça a été signé chez le notaire en 2010.
Voilà, en 2010, ça a été signé au mois de juin.
D'accord. Et donc les revenus locatifs?
Alors, on doit être, si mes
Enfin,
souvenirs sont...
déjà le crédit
Alors,
de la
le
personne qui a
crédit,
investi dans ce bien-là.
je crois que c'est autour de 1 000 euros.
D'accord.
Et on doit avoir 1 200 euros de revenus locatifs.
D'accord.
Voilà.
Donc ça, c'était en 2010, au moment où l'immobilier avait déjà pris 100%, plus de 100% en 10 ans partout en France. Et donc beaucoup de personnes disent que c'est trop tard pour investir dans l'immobilier, qu'il fallait le faire il y a 10 ans. Et
Alors,
bah
ouais.
là, tu prouves que non, non, même en 2010, on peut trouver des affaires qui se payent toutes seules, voire un petit peu plus.
Alors, comme on a discuté juste avant, c'est vrai que on a tendance à se dire l'immobilier, il faut investir avant que ça monte et quand ça descend, c'est pas bon. Il faut juste avoir en tête que un investissement immobilier, si on le garde suffisamment longtemps, nous coûte zéro. C'est-à-dire qu'il ne nous coûte absolument rien. Au départ, il nous coûte forcément. J'irai, mais vous prenez un crédit sur 20 ans, au bout de 22, 23 ans, vous n'allez rien payer. Et pour la majorité, pour certains biens, c'est même dès la première année. Voilà. Ceux qui s'autofinancent, il faut faire attention à la fiscalité, parce que généralement, elle nous reprend d'une main ce qu'on a gagné. Mais voilà, il faut avoir en tête que sur un investissement locatif, on a payé la majorité du temps. On va prendre un exemple. Sur un bien qui a un rendement de 5% brut, en comptant tout, on a à peu près le bien immobilier sur 20 ans, il nous coûte 25% de son prix, en comptant les intérêts d'emprunt, en comptant les assurances, etc. Donc c'est 25 à 30% que ça nous coûte réellement. Donc on n'a pas surpayé le bien. À la limite, si on a payé 25% de son prix, qu'il n'ait pas augmenté pendant 20 ans, c'est pas un problème. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on n'achète pas de l'immobilier pour le revendre. Au départ. Donc on l'achète pour avoir un actif qui nous génère du cash et de la trésorerie. Et si on compte faire un achat-revente, là c'est vraiment une autre démarche. C'est vraiment deux démarches différentes.
Donc moi je t'ai mandaté, ça fait à peu près 15 jours pour que tu me recherches un bien justement comme ça, un immeuble en province. Et bah on n'a rien pour le moment, donc tu penses que ça te prend combien de temps en moyenne pour trouver quelque chose à tes clients?
Non, car je dirais qu'en moyenne, il faut lancer le projet, savoir quel budget, parce que tout le monde n'a pas le même budget. Il faut savoir aussi quelle structure juridique. Est-ce qu'on le fait via une SCI, une SCP? Donc c'est Société Civile Immobilière
On
ou de
va parler.
Placement, d'accord? Et donc savoir aussi exactement ce que recherchent les clients. Et ça, je dirais que cette phase-là, par acquis de conscience, j'ai toujours besoin, moi, d'avoir un certain recul. C'est-à-dire que si je rencontre des clients, j'ai besoin de bien connaître leurs besoins Et généralement, on ne fait pas d'investissement dans la semaine ou dans le mois qui vient.
C'est sûr.
Ça prend généralement 2, 3 mois.
Mais si le gars a déjà, comment dire, mûri son projet, ça fait
Ah
3 mois qu'il
oui,
essaie
bon, ça,
d'investir et rien,
alors,
il vient de voir
je
et
dirais que
il
ça
te
peut
parle dans
être
encore
très
3
très
mois.
rapide. Ça peut être très très rapide. Je dirais que c'est souvent par contact. C'est-à-dire que ça, il va rien se passer pendant 2 mois et le troisième mois, il y aura 3 affaires d'affilée. En fait, souvent de fois, c'est des sortes de vagues. Moi, je dirais que mes biens, je les cherche pas tout seul. C'est-à-dire que j'ai des gens de confiance qui me préviennent de bonnes affaires. Voilà. Et c'est surtout ça aussi. C'est qu'il faut se constituer un réseau pour être alerté sur certaines bonnes affaires. C'est primordial. Voilà. C'est un peu le cœur du métier pour la recherche en tout cas.
Bon, en tout cas, enfin, ceux qui écoutent l'interview pourront voir les photos du bien à Beaufort ainsi que le prix d'achat-revente et également d'autres biens que tu as gérés. Je sais que on aime bien les chiffres. Je suis le premier à
Oui.
bien aimer les chiffres et les photos pour se rendre compte de ce qu'on peut faire. Et toi, tu m'as appris un truc par rapport à l'investissement immobilier, c'est le tri. Le calcul du tri qui est le taux de rendement interne, quelque chose
Oui.
que je vais essayer d'appliquer au maximum dans le bien que tu es en train de chercher.
Oui.
Donc explique-nous un peu ce que c'est.
Alors, souvent de fois, on parle de rendement brut, rendement net. C'est des paramètres finalement qui sont assez peu crédibles. C'est-à-dire qu'on va. On va prendre un appartement, on le finance à 100% via un crédit, et donc on va parler de rendement, donc c'est ce qui nous rapporte par rapport au prix du bien, sauf que le prix du bien, on n'a rien payé. Donc on va par exemple prendre un rendement brut ou un rendement net, on va exactement mettre le même rendement pour quelqu'un qui prend son cash, sa trésorerie, qui achète l'appartement, et pour quelqu'un qui va emprunter à la banque et qui va investir. Et en fait, c'est un petit peu une vue de l'esprit, mais le taux de rendement interne permet de calculer en fait la réelle, comment dire, le réel rendement de l'argent qu'on verse. Exemple, si l'appartement s'autofinance, donc on fait un emprunt de 100 000 euros, il y a à peu près pour 600 euros de mensualité. Si on a 600 euros de loyer, normalement, on n'a jamais sorti d'argent de notre poche. Donc, ça veut dire que le TRI est infini. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent, on l'a même pas sorti et qui crée déjà des petits. Si, par exemple, on a des taux de rendement interne, souvent de fois, on va avoir un rendement qui est de 5%, mais un taux de rendement interne qui va être plus élevé. Pourquoi? Parce que justement, grâce à ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va tout simplement avoir on va mettre 100 euros de notre poche chaque mois et ça va générer un capital à la fin qui est bien plus élevé. Donc, c'est comme si les 100 euros qu'on va, par exemple, on a 500 euros de loyer et 600 euros de mensualité, donc 100 euros de notre poche, à la fin, ça nous crée un capital. Et ben, c'est comme si on plaçait ces 100 euros sur un compte avec un certain taux chaque mois. Et le TRI, c'est exactement ça. Donc c'est un calcul financier qui est assez complexe. Sous Excel, on a des outils comme Excel. Moi, j'utilise en fait des logiciels comme Top Invest, etc., qui sont assez chers, qui permettent tout simplement de calculer ce taux de rendement interne. Et l'idée, c'est que plus le taux de rendement interne est élevé, et plus on va avoir finalement un intérêt financier
Ouais.
dedans.
Et c'est pour ça
Voilà.
que l'investisseur qui investit dans un bien à 100 000 euros
Oui.
à crédit est enfin, davantage gagnant que l'investisseur qui met 100 000 euros cash pour ce
Voilà.
bien-là. Parce que lui
Ben,
aura vraiment un taux
exactement.
de 5% brut.
Voilà. En fait, s'il a 100 000 euros qu'il les met dedans l'immobilier, il va avoir son TRI va se rapprocher de 5%. Voilà. Et donc, du coup, ça va pas être super intéressant parce qu'à la limite, il l'aurait placé dans un autre placement financier, ça aurait été un peu pareil. Là, en faisant un emprunt immobilier, on a l'effet de levier. Et ce qu'on voit dans les placements financiers, enfin c'est que plus on apporte de l'argent de notre poche, et moins on gagne. C'est assez troublant. C'est-à-dire qu'en fait, l'intérêt, c'est de s'endetter au maximum. Et donc, c'est assez troublant. Je pense qu'il faut un peu creuser le sujet. C'est vraiment un outil qui est parfait pour savoir si un projet est bon ou pas. Généralement, je dirais, les projets dépassent 35%. Au-delà de 35%, ce n'est pas représentatif, c'est-à-dire que l'argent, finalement, on n'a rien payé. Voilà. Donc, c'est un peu l'objectif, c'est de tendre vers ces 30, enfin, de tendre vers le maximum. On arrive pour des projets classiques à dépasser 17-18%. C'est-à-dire que c'est comme si vous placiez votre effort de trésorerie, enfin ton effort de trésorerie chaque mois va être de 17 ou 18%. Enfin, va être récompensé.
Bien mieux qu'un livret A ou que.
Voilà, exactement.
Est-ce que tu peux nous parler des SCI? On entend ça partout, donc apparemment il y aurait des avantages fiscaux là-dedans, on aurait des financements plus faciles grâce à ça. Qu'est-ce que c'est les SCI? Est-ce que c'est un outil magique?
Alors, SCI, il y a beaucoup de, je dirais, de bruit qui court, une grande mode qui consiste à dire je veux être en SCI et pourquoi pas. J'aurais tendance à remettre un peu ça d'aplomb. La SCI a l'impôt sur les revenus, donc c'est tout simplement un bon moyen de transférer un patrimoine, c'est un bon moyen de faire un projet à plusieurs, ça encadre finalement l'indivision.
Ouais.
Si tu achètes à deux ou à trois sans aucune autre forme, c'est l'indivision. L'indivision, si un des indivisaires qui veut vendre, les autres sont obligés de vendre, sauf convention, etc. La SCI permet justement d'encadrer ça, donc c'est un outil assez sympa. Par contre, il faut faire attention parce que beaucoup font des SCI à l'impôt sur le revenu qui sont des coquilles vides. C'est-à-dire qu'en fait, une SCI, ça demande aussi un peu des comptes rendus d'assemblée générale, etc. Et je dirais que le deuxième outil le plus intéressant, fiscalement, parce que là, en fait, la SCI à l'IR, elle est transparente. C'est-à-dire qu'en gros, si on a la moitié des parts d'une SCI, ben on aura la moitié des loyers et les moitiés des charges. Donc ça va être exactement la même chose, il n'y a pas vraiment d'intérêt fiscal. Par contre, si on crée une SCI à l'impôt sur les sociétés, donc à l'IS, là on crée une société, une structure dans laquelle l'immeuble va être acheté par une personne morale, donc une société. Et là c'est intéressant, pourquoi? Parce qu'on va avoir un taux d'endettement qui ne va pas être le même. C'est-à-dire qu'on sort de ce taux d'endettement, fameux taux d'endettement des ménages qui ne doit théoriquement pas dépasser 33. Bon, on sait tous que plus on a de biens immobiliers, plus on peut augmenter ce taux-là. C'est-à-dire qu'on arrive, moi j'ai des clients qui sont à 78-80% de taux d'endettement. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Et 33, c'est bien quand c'est sa première résidence principale. Après, au-delà, il y a des moyens, ça dépend des revenus, etc. La SCI, elle permet tout simplement d'être comment dire, une structure encadrée, sociétaire, donc il y a des contraintes, il faut faire de la comptabilité, etc. Mais il y a des gros avantages là. Tant qu'on ne sort pas les bénéfices de la société, ils ne sont pas taxés. C'est-à-dire qu'on va payer l'impôt sur les bénéfices de la société, qui va être de 15%. Les 38 000 premiers euros, et tant qu'on sort pas cet argent, on le laisse dans la société via un contrat de capitalisation, un compte à terme ou quelque chose comme ça. Et à la fin, finalement, le patrimoine va grossir à l'intérieur de cette structure et on peut le sortir en dividende, tout comme une société. Donc là, en fait, on va rentrer dans quelque chose qui est très très intéressant, c'est-à-dire qu'on pourra finalement pendant 15-20 ans, on va être redevable de l'impôt des sociétés. Mais par contre, on pourra amortir le bien. Donc ça, je ne sais pas, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est quand même intéressant. C'est-à-dire qu'on va tout simplement mettre une perte de valeur comptable, dépréciation avec le temps, et on va la chiffrer. On va pouvoir tout simplement payer des frais qu'on n'aurait pas pu autrement. Par exemple, je me déplace à Paris pour voir mon bien immobilier, je facture à la
C'est ce que tu
société.
me disais. Parce que moi,
Voilà.
j'aimerais créer une SCI avec mes parents pour investir en Guadeloupe.
Voilà.
Mon père est de Guadeloupe. Et donc, on voulait créer une SCI, notamment à Liès, pour faire du
Oui.
saisonnier. Puisque le saisonnier, c'est pas des revenus fonciers, c'est du
BIC.
micro. Voilà.
Ouais.
Bénéfices industriels et commerciaux. C'est du meublé. Et donc, on ne peut pas créer une SCI à l'impôt sur le revenu. Il
Oui.
faut faire une SCI à l'IS, à
Voilà,
l'impôt
tout
sur les
à fait.
sociétés. Et tu me disais que le gros avantage avec ça, c'est qu'on pourrait déduire finalement les billets d'avion
Alors, faut bien, dans la mesure du, je dirais, du légal, et
Voilà.
faut faire attention avec, je dirais, avec le fisc. Normalement, oui. C'est pareil, il faut éviter les abus là
Ouais, mais
aussi.
bon,
Voilà.
après on peut prendre un billet d'avion Paris-Pointe-à-Pitre pour aller gérer la maison, et rien ne nous empêche d'aller boire un petit punch à côté ou d'aller voir la famille.
Voilà. Après, c'est ce genre de choses, il faut bien la maîtriser. Après,
Voilà.
c'est tout. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un gros avantage de cette structure finalement que peu de professionnels font pour une simple raison, c'est que c'est assez complexe au départ à appréhender. Mais je dirais qu'une fois qu'on connaît bien les tenants aboutissants, c'est vrai que ça se gère assez bien. Beaucoup de gens utilisent ça et c'est vrai que c'est assez intéressant. Voilà.
Parce que la SCI à l'IS, finalement, le taux d'endettement de cette est reporté sur la société, pas sur les
Alors
individus.
voilà, en fait, quand on crée une SCI, c'est une société, ça s'appelle une personne morale
Ouais.
en termes juridiques, et en fait, on va tout simplement regarder son taux d'endettement à cette personne morale. On va prendre un cautionnaire ou un garant sur ses biens personnels. Par contre, on va regarder l'endettement de la structure. Donc, par exemple, si on a des loyers qui dépassent de 10% ou 15% les mensualités, on va faire revenu charge. Eh ben, l'emprunt va passer sans problème. Donc c'est un gros atout. Je dirais que le premier avantage, c'est qu'on met plusieurs personnes ensemble. Deuxième avantage, on peut laisser finalement les gains dedans. Donc on n'a plus la CSG, on n'a plus ce genre de choses. Et en plus, on peut retirer, gérer de cette société de façon, voilà, quand on en a besoin, on peut retirer des dividendes si on n'a pas besoin. On le laisse dessus, on le place dans des contrats spécifiques. Et finalement, on grossit notre capital sans avoir cette fiscalité. Alors, on a l'impôt sur les sociétés, bien sûr, il faut s'en acquitter, mais on peut aussi déduire tout un tas de charges qui ne sont pas déductibles autrement. Donc, c'est un bel outil à manier avec précaution. Voilà, c'est pour ça que peu de professionnels le recommandent, gérer par mesure de facilité ou gérer. Voilà, c'est quelque chose qui est assez lourd au départ, pas pour le client, hein, pour à mettre en place, mais voilà, une fois que ça tourne, c'est très très bon.
Ok, bah merci beaucoup Étienne. Donc toi tu as un site, un blog, tu peux
Oui.
nous donner le lien, l'URL?
Alors, c'est indépendance financière, c'est donc www.indépendanceFinancière.fr.
Ok.
Voilà.
Donc bah j'espère que tu vas pouvoir me trouver mon petit immeuble et
Ben, on y travaille.
qu'on puisse faire du business ensemble. Ok, bah merci
Voilà.
beaucoup.
Ben, merci
Hein. À
beaucoup.
la prochaine.
Au revoir.